Bonjour les spotters. Le décryptage hebdo de l'actu numérique.
Eh bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et moi cette semaine, ça a été la semaine du métaverse, du métavers comme on dit en bon français, metaverse, c'est quand on est justement en anglais. Et oui, parce qu'on a lancé James Butland et que du coup, ça a mis ça dans l'actualité. On a vraiment eu une grosse retombée autour de cette sortie de James Butland. Et moi, je voudrais faire un retour en arrière sur ce métavers en général. Parce que sur James Butland en particulier, vous pouvez aller voir, il y a plein d'articles dans le Mag IT, dans Solutions Numériques. Il y en a dans Collab Info qui sont sortis aujourd'hui. Il y en a d'autres qui se préparent. Je crois que j'ai une chronique ce matin que j'ai même pas encore entendue dans France Info. Donc voilà, c'est une belle retombée. Mais moi, je voulais parler plutôt justement de la partie du métavers en général. Parce que le métavers, il vient de très très loin en fait, hein. Pour ceux qui connaissent, en fait, le métavers, c'est moi depuis les années 80, parce que moi j'ai beaucoup lu de science-fiction, c'est en fait une problématique qui vient de ce moment-là. On avait imaginé des mondes justement dits virtuels dans les années 80, avec différentes formes. Évidemment, des formes plutôt qu'on va appeler des dystopies, des trucs qui étaient un peu comme cyberpunk, des trucs pas très cool. Au contraire, des choses comme plus positifs. Et d'ailleurs, il y a même un terme qui est apparu qui s'appelle solarpunk, qui est la partie solaire. Et c'est intéressant, parce que quand nous, on a travaillé, on a dit, oui, nous, c'est ça qui nous parle. Jusqu'au film, par exemple, moi, je sais qu'un film très emblématique de ces questions justement de monde virtuel, c'est le fameux Ready Player One dont on parle souvent, hein, je crois que c'est Spielberg qui a fait ça. Incroyable film qui raconte en fait tout ce que peut devenir justement un fameux métavers avec certaines capacités. Ou plus récemment, là justement, par exemple, une série que je dois regarder qui s'appelle Upload, que je n'ai pas encore eu le temps de voir, je crois que c'est sur Amazon Prime, avec une histoire justement de métavers, de gens qui sont morts, voilà. Donc c'est hyper intéressant comme sujet. Donc c'est un vieux sujet, c'est un vieux rêve de l'humanité. Mais est-ce que c'est pas too much? Parce que c'est ça qu'on voit. Là, on voit bien, il y a eu évidemment Facebook qui est devenu, avec Mark Zuckerberg et Meta, il est allé dans le métaverse. Mais on sent aussi que peut-être, comme on dit, il est allé un cran trop loin. C'est un peu comme l'IA, quand on dit oui, mais on va y avoir des robots qui vont parler. Est-ce que vraiment on veut des robots qui nous parlent? Et c'est ça la question posée. Et vous savez que, je vous dis que moi, c'est un sujet évidemment qui m'intéresse depuis depuis mon adolescence, on va dire. Et à JSON, ça fait plusieurs fois qu'on a expérimenté. J'ai remarqué dans le temps, là, en 2019, on avait commencé à faire des choses. En 2020, on avait joué, par exemple, à mon avis, Firefox avait sorti aussi des systèmes pour pouvoir faire justement des petits métavers très sympas avec des personnages un peu 3D, mais très très en forme, un peu, on va dire, géométriques. En fait, on avait joué avec ça, mais on a dit oui, et ça ne nous avait pas beaucoup parlé. On avait fait un essai, justement, de ces métavers en 2D une première fois, et ça avait pris, puis en fait, on n'était pas resté en disant, mais non, mais on n'est pas là pour jouer, justement, cette fameuse idée de jeu. Et puis là, il y a 6 mois, nous, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, dans cette expérience-là, suite, évidemment, avec toutes les histoires de Covid, d'hybridation, les gens en télétravail, le fait que nous, on est devenu une boîte remote, qu'il y a plein de gens, en fait, très très peu de gens dans les locaux maintenant, tout d'un coup, le fait de s'immerger dans un système dans lequel on a pu recréer en fait nos locaux en virtuel. Alors là, clac, ça fait mouche. Et là, on s'est dit, OK, là, faut en faire un produit. D'un point de vue strat, on s'est dit, faut y aller, faut foncer. D'où James Butland. Et c'est pour ça que moi, je voudrais revenir un peu sur la définition justement de ce métavers. Parce qu'il y a des gens là, par exemple, là-dessus tout de suite qui m'ont dit, oui, mais Alain, tu parles de métavers, mais c'est pas un métavers du tout. Déjà, c'est un monde virtuel, c'est déjà pas mal. Je voudrais ramener, aller voir sur Wikipédia, hein, d'ailleurs, les définitions. Un métavers, pour moi, c'est 5 éléments. Qui découle plein d'autres choses, et là, les gens, après, à mon avis, se projettent dans les détails. Vous allez voir. 1, c'est un univers virtuel. Ça, on est d'accord. C'est un truc numérique, c'est pas un truc dans la vraie vie. C'est-à-dire que si un jour on découvre un univers sur Mars, ce sera pas un métavers, ce sera un autre univers. D'où la différence avec le cross-univers, il y a d'autres univers ou le multivers, c'est-à-dire les univers qui nous sont parallèles dans la réalité. Donc, déjà, c'est un premier point. Donc, c'est un univers de représentation numérique. Point 1. 2, c'est quelque chose de permanent. Univers qui doit être permanent. C'est pas un truc qu'on ouvre et qu'on ferme. Et 2, il est dans un temps à la fois réel, mais un temps normatif. C'est-à-dire qu'une seconde dure une seconde. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, c'est une des différences assez fortes avec les jeux. Dans les jeux, c'est pas forcément permanent et le temps n'est pas forcément réel. Vous avez à la fois des effets de ralentissement ou d'accélération du temps. Vous pouvez faire des parties plus rapides. Vous pouvez dire, bon, OK, maintenant, je me projette dans... Je laisse le jeu jouer pendant... Ça dure très, très vite, pendant 5 minutes. Et puis, c'est pas permanent. On peut jouer, on peut mourir. Hein. Je pense évidemment à Fortnite. Je descends, je meurs, je remonte, je descends, je meurs, je remonte. Bon. Donc on est vraiment pas dans la même logique par rapport à ça, par rapport à un jeu. Et puis la chose, c'est qu'on existe dedans, en tant que personne. Et la dernière chose, c'est qu'on a des interactions. Pour moi, c'est ça les 5 points qui font un métavers. Et par contre, après, les modalités du temps réel, les modalités de comment on existe, les modalités sont des modalités à la fois de fonctionnement ou de technique. Alors là, effectivement, ça définit des types de métavers. Par exemple, moi, je dis souvent un peu en blaguant, mais c'est assez profond, le réseau social d'entreprise est un métavers 1D, une dimension. Pourquoi ? Parce que oui, le réseau social d'entreprise, c'est un univers virtuel, voilà, dans lequel il est permanent, parce que le réseau social, une fois qu'il est installé dans une boîte, il est là. Il est en temps réel, c'est-à-dire que si je clique, on voit que je clique, j'envoie un truc, c'est maintenant, c'est pas, il n'y a pas de temps accéléré, il n'y a pas de temps ralenti. J'existe dedans, sauf que par contre, oui, c'est 1D, j'ai un profil figé comme ça, avec une petite photo qu'on a pris de moi. Et puis, j'ai des interactions, bah, je peux envoyer un document, je peux faire un like, voilà. Mais donc, ce n'est pas des interactions avec mon corps, mais c'est des interactions. Donc, il est 1D, ouais, une dimension. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de scroll, vous savez, dans le fameux flux d'activité. Alors que dans l'univers ensuite 2D, on voit par-dessus, vous savez, comme un plan. Ça, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec James Potland. Après, il y a le 2D. Alors, il y a plein de jeux qui sont comme ça. Tous les jeux de plateau des années 80 étaient en 2D. Puis après, il y a ce qu'on appelle le 2D ISO. C'est-à-dire qu'on voit une perspective isométrique. Vous savez, comme avec. Ça donne une illusion, en fait. C'est du 2D, mais ça donne une illusion de profondeur. Bon, ça, c'était plutôt comme les Sims. Puis après, il y a la 3D. La 3D, c'est vous êtes vraiment en 3D, mais par contre, votre écran, lui, est toujours là. Puis après, la 3D immersive. Vous êtes dans un casque et là, c'est vous qui êtes à l'intérieur de la 3D et vous vivez l'expérience complète. Donc ça, c'est des modalités de projection dans cet univers. C'est pas l'essence même. Alors évidemment, il y a des gens qui disent « Oui, mais si c'est pas 3D immersif, c'est pas un métavers. » Peut-être demain. Peut-être pas aujourd'hui. C'est-à-dire que la question aussi de la technologie, pareil, les écrans. Moi, j'ai vécu pendant, je sais plus combien, on va dire 10 ans, avec des écrans noirs et blancs. Hein, vous voyez ? Enfin, ils n'étaient pas noirs et blancs, ils étaient noirs et verts, ou noirs et jaunes. Mais ils n'étaient pas couleur. Tout à coup, la couleur est arrivée. Mais les gens n'ont pas dit, non, mais un ordinateur qui n'a pas d'écran couleur, c'est pas un ordinateur. Bah non, au départ, ils n'avaient pas de couleur. Puis après, il y a eu la couleur. Donc, la question aussi après de la profondeur, c'est que si on 3D, 3D immersive, elle va arriver peut-être avec les devices qui sont de plus en plus puissants. Ça, c'est clair. Sauf qu'aujourd'hui, en tout cas, ça c'est mon analyse, c'est pas mature pour un usage, en tout cas pratique dans l'entreprise. Moi, ce que je ressens, c'est que la 3D, en particulier immersive ou la 3D, elle peut être magnifique, mais magnifique, il y a des moteurs incroyables, mais par contre, plutôt pour montrer des belles choses, donc c'est là où les marques, à mon avis, en B2C, ont un rôle très 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 important, mais c'est pas pratique. Pas pratique d'aller échanger un document, pour aller courir. Vous voyez, il y a une espèce de, justement, une lenteur du corps qu'en 2D, on n'a pas. Donc ça c'est un point important pour moi de rappeler que, voilà, le métavers, c'est de manière générale, et non pas les technos. Et je vais aller plus loin. J'ai parlé d'interaction. Ben, il y a des gens qui disent, non, mais le métavers, évidemment, il y a du NFT, des cryptos dedans. Allô? Pourquoi? En fait, il y en a si l'univers, il y a des interactions, qui dans ces interactions, il y a par exemple des achats. Et si on dit que ces achats doivent se faire en monnaie qui ne sont pas de la monnaie normale, donc crypto, alors là, oui, un métavers peut avoir de la crypto. Donc, quelque part, c'est vraiment un sophisme. C'est pas parce qu'un métavers, ça n'a pas de la crypto. C'est que des usages de métavers dans lesquels on veut acheter avec de la monnaie qui est numérique, alors oui, il faut de la crypto. Par exemple, dans le métavers qu'on a sorti de Jamespot, il n'y a pas Jamespotland, il n'y a pas de crypto, il n'y a pas de NFT, on n'a pas besoin. Mais peut-être demain, si on commence à faire des achats, des transactions, et que là, ça fera sens. Mais en fait, les gens confondent l'objectif. Moi, j'ai un autre exemple, la gouvernance. Et les gens qui disent, oui, non, mais un métavers, forcément, c'est décentralisé. Pourquoi ? Ça, c'est une question de gouvernance. Après, on peut dire, c'est mieux que ce soit décentralisé que centralisé. Peut-être, comme la démocratie, peut-être mieux que la dictature, ou comme, mais sauf que des systèmes d'information aujourd'hui, il y en a des centralisés qui marchent très bien, d'autres décentralisés, d'autres un peu entre les deux. Donc, ça aussi, c'est des capacités, et en fait, ça va définir des familles de métavers différents. Alors, lesquels vont gagner, lesquels vont survivre, lesquels vont prendre le pas, ça, c'est une bonne question. Et nous, en tout cas, à Jamespot, on a pris un parti très particulier sur notre petit monde, hein, qui est le B2B, l'entreprise, le côté pratique, productivité, collaboration. Bah nous, on dit aujourd'hui, le meilleur endroit, c'est le métavers 2D. Et quand on dit ça, d'ailleurs, c'est très humblement. C'est pas la fin du monde, de l'histoire, de la technologie. Bien au contraire. Par contre, c'est que le début. Mais c'est un pas de plus que le métavers 1D, pour reprendre ce terme-là, que font tout le monde aujourd'hui. tous les systèmes d'information de type collaboration sont des trucs indés. Bon, voilà, on a proposé un 2D, on progresse. Voilà, peut-être que demain, la 3D arrivera et on sera les premiers. Vous savez, on adore l'innovation chez nous, à y aller. Mais donc ça, j'aurais vraiment qu'on redonne un peu cet élément-là parce que ça redéfinit aussi comment les entreprises doivent se penser par rapport à ces questions du métavers. Quel est mon objectif? Est-ce que je veux monnayer, vendre des trucs? Est-ce que je veux des clients? Est-ce que je veux travailler? Est-ce que je veux mettre, par exemple, des écosystèmes pour faire de l'innovation? Bah, forcément, les formes de métavers vont pas être forcément les mêmes. Il y en a certains qui vont justement, et moi je suis persuadé de ça, qu'il y a des marques qui vont venir nous prendre un Genspotland et aller sur un Decentraland. Parce qu'ils ont besoin et d'avoir un truc plutôt 3D pour présenter, par exemple, dans un showroom de leurs produits, quand on s'appelle Nike, pour montrer qu'on a des chaussures qui courent avec des athlètes. Mais d'un autre côté, quand on veut produire plus vite chez Nike, eh ben, on a besoin d'un système de collaboration. Et c'est pas dans Decentraland qu'on le fera mieux. Voilà. Ça, c'est typiquement ça, l'écart. Donc, nous, en tout cas, voilà, on s'est attaqué à cette problématique-là, avec nos fameux bureaux, notre espace public. Ce qui est nouveau pour nous aussi, et là, c'est plutôt Genspot, hein, c'est le fait qu'on attaque la question privative d'un côté, avec des bureaux et des cartes qui vont s'étendre, reliées évidemment à notre plateforme, parce que nous, c'est ça la force aussi, c'est qu'on a la plateforme qui est synchronisée avec ce monde 2D. Et puis de l'autre côté, on a une partie publique. Et là, ça ouvre tout un pan maintenant aussi de nouveautés pour nous. Par exemple, d'organiser des événements dans Genspotland. Par exemple, d'avoir des espaces de coworking où des gens vont pouvoir venir. Et donc finalement, avoir des usages plutôt morcelés de ce qu'est aujourd'hui notre plateforme pour des entreprises qui sont de taille intermédiaire. Nous, ça partait de 20, 30, 50 personnes, 100, 500, 1000, voilà, jusqu'à 100 000. Des gens, par paquet de 3 ou 5, 10 personnes, pourront venir picorer dans le Genspotland des choses. Donc c'est aussi, le fait aussi, toujours cette idée d'accessibilité à des technologies plus larges. Et le métavers, je pense que c'est un de ces enjeux. Comment il fait, comme le web en son temps, pour atteindre le plus grand nombre. Voilà. Et notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas par la 3D immersive qu'on peut atteindre le plus grand nombre. Ça coûte trop cher, c'est compliqué, c'est cher. C'est même socialement problématique de s'enfermer vis-à-vis des autres. Nous, au contraire, on a fait un système qui était plutôt ouvert, positif, plutôt, comme je l'ai dit, déstressant, parce qu'on veut aussi un système qui est plutôt positif, y compris frugal. On ose l'assumer, oui, parce que le système 2D consomme très peu de ressources. Donc, bah, quelque part, on apporte de la valeur sans augmenter encore la consommation électrique ou d'être obligé de changer de device, de nouveaux ordi. Ça marche très, très bien sur les ordi classiques. Voilà, on n'a pas besoin d'une bête de course pour faire tourner ça. Donc, la frugalité aussi, c'est important parce qu'on pense qu'il faut s'inscrire dans une démarche durable par rapport à ça. Il y aurait plein de choses à dire sur le métaverse. Le mieux, de toute façon, là, pour le coup, vraiment, c'est de jouer avec. Donc, allez-y. Essayez-le, allez sur Genspotland, promenez-vous dans la partie publique, rencontrez des gens, mais surtout essayez justement de lancer une plateforme. Vous allez voir, vous pouvez avoir vos bureaux privatifs, ou d'où aller rencontrer des gens qui en ont déjà. Et vous allez voir, c'est une expérience assez intéressante au quotidien, parce que nous, ça nous a changé la vie. On travaille plus tout de la même façon depuis qu'on a ça à Genspot, et c'est ça qu'on voulait partager avec tout le monde. Et notre logique aussi d'innovation dans cette mode un peu collaboratif et collectif. Voilà, vous savez que ça, c'est les valeurs qui nous sont chères, c'est ça qu'on veut partager avec vous. Et alors, je pense que ma chronique est plus longue que d'habitude, parce que sur le métavers, vous savez, je suis intarissable. Déjà, je parle beaucoup, mais alors là, je ne tarie pas, parce que pour moi, c'est un sujet tellement passionnant. Il y a tellement de choses à découvrir. C'est assez incroyable. Donc voilà, je vous dis à très vite dans le métavers, mais aussi dans la vraie vie, parce que justement, faut pas oublier que il y a une vraie vie à côté du métavers. En tout cas, ça vient s'additionner à ce monde numérique. Donc je vous dis à la semaine prochaine ou à tout de suite dans Genspotland.